Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h tout pile, de rien. Eh oui, on est double champion d'Europe aujourd'hui. On est sur RMC dans Rotten sans flamme. On l'avait dit avec Benoît Boutron qui est à mes côtés. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
On l'avait dit, tu l'avais dit, c'est tout droit. Eh bah oui, c'était tout droit. Bon, c'était pas si droit que ça. Il y a eu quelques virages à prendre, mais en tout cas, elle est là, la coupe est revenue. À la Tour Eiffel.
Et ça fait plaisir à toute la Dream Team de Rotten Sans Flamme.
Et ça va être une magnifique émission, une magnifique semaine. Oh là là, on va se régaler. On va se régaler avec Christophe Dugarry. Salut Dugas.
Salut Jérôme, salut Benoît, bonsoir à tous les amis.
Salut Dugas.
Bon Dugas, on n'est pas tout seul, on a invité Eric Dimeco. Salut Eric.
Salut Jérôme, salut Benoît, salut Dugas, Eric. Salut les amis. Osiris repart sur les routes.
Excellent, on attendait que ça alors.
Oui, samedi 13 juin, on sera au festival de tribute à Pernes-les-Fontaines. Et sachez qu'Osiris a eu les faveurs du New York Times, donc jeudi dernier. Article sur Osiris dans le New York Times. Voilà les amis, vous pouvez le retrouver si vous voulez.
T'as dû parler anglais alors.
Magnifique.
Et oui, j'ai parlé anglais, mais heureusement il parlait français le monsieur.
Bon ça va.
Combien de pizzas vendues à la Casa Dimeco avec le code promo back to back, Eric?
Bon, on me dit que depuis samedi soir
mais
tu parles anglais.
Il y avait Jules vendredi et samedi, donc nos clients étaient des fans de Jules qui allaient au stade de Londres.
Oui, c'était un mélange.
Il
n'y
a pas eu personne à regarder le match chez nous.
Ah d'accord. Mais tu sais ce qui s'est passé quand même?
Ah non, moi je sais pas.
Paris est champion d'Europe pour la deuxième année consécutive.
Moi je sais que les Spurs sont en finale de NBA.
Aussi magnifique quelle année. Voilà.
Mais j'ai pas ouvert un journal, j'ai pas écouté une radio, ni regardé la télé depuis 3 jours.
Ouais, ça tombe bien, on va te raconter. Écoute, et puis
racontez-moi, allez.
Bah, le maillot est en route. Il doit bientôt le recevoir. Les deux étoiles, c'est magnifique. Back to back derrière. 26, c'est fantastique.
Un Rotten sans flamme spécial ce soir sur RMC. Rotten se chauffe à 19h. Est-ce que Paris a conquis le cœur des Français? On sera en direct de Nantes. On sera un peu partout en France. On vous attend surtout au 32-16 pour venir témoigner. Est-ce que ça y est, vous aussi, vous devenez supporter du Paris Saint-Germain après ce deuxième titre de champion d'Europe décroché en 2 ans? À 19h30, l'autre fait marquant du week-end, bah ça y est, ce sont les ambitions décomplexées de ce Paris Saint-Germain. Parler de troisième titre, est-ce que c'est présomptueux? 32-16 là aussi pour débattre avec nous. On a convoqué une légende à 18h45, une autre légende du Paris Saint-Germain. Safet Šušić, messieurs, sera avec nous à 18h45 pour nous raconter comment il a vécu ce deuxième sacre européen du Paris Saint-Germain. Et on va beaucoup parler du match pendant 40 minutes. À 18h30, on va faire le procès de tous ceux qui critiquent le jeu d'Arsenal. Deux défenseurs des Gunners dans la Dream Team ce soir. Rendez-vous à 18h30 pour un très grand procès. Le direct, c'est Roland Garros avec la suite des huitièmes de finale qu'on suit avec Eric Salio qui est avec nous. Salut Eric.
Salut Rico. Bonjour à tous. Effectivement, deux matchs en simultané sur les deux principaux cours de Roland Garros. Sur le central, Félix Auger-Aliassim, tête de série numéro 4, mène une manche à zéro face à Leandro Tabilo, le Chilien qui avait battu Maurice Coimet il y a 2 jours. Et puis, sur le cours Suzanne Lenglen, eh bien c'est beaucoup plus serré entre Berrettini et Cerundolo. Berrettini a pris le premier 6-3, mais l'Argentin, le gaucher argentin, mène 6-5 dans le deuxième.
Merci Eric, on va se connecter avec toi pour savoir ce qui se passe.
On lui a envoyé 4 joueurs.
Ouais, incroyable, 4 internationaux français avec la deuxième Ligue des Champions. C'était magnifique tout à l'heure.
On est parmi
sur RMC. Vous le savez, dans 10 jours, c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, RMC Radio officielle.
On s'en fout.
C'est quoi le match d'ouverture aujourd'hui?
Mais qu'est-ce que tu me parles, la Coupe du Monde?
C'est quoi le match d'ouverture?
J'en sais rien. Écoute, nous, c'est le back-to-back. C'est tout. C'est comme ça. Il faut se la
Mexique,
semaine.
Afrique du Sud.
On a le
mais
temps.
Mais non, on fait gagner des places ce soir, Jérôme. On fait gagner des places.
Dans 10 jours.
Pour le premier match amical des Bleus, ce sera jeudi à 21h à Nantes, France Côte d'Ivoire. Envoyez dès maintenant France au 732-16. France.
Voilà, il faut se fouiller à la nuque là.
2 places pour assister au premier match de préparation de l'équipe de France. C'est à Nantes, 21h jeudi.
À Beauvoir.
Allez, 18h04 sur RMC. Eric, tout de suite, un titre, c'est historique, toi. Deux titres, c'est légendaire.
Le coup d'envoi va être donné par les Gunners et voilà, c'est parti, wow. Avec une chandelle de rugby. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Declan Rice qui envoie une chandelle pour tout de suite alerter Kaya Vert. Oh, il a promis des nouveautés, Arteta, bah on voit la une. Et le ballon va être récupéré par Marquinhos, il est contré. Oh, il n'y a pas de position de hors-jeu pour l'instant. Declan Rice qui va arriver dans la surface de réparation du PSG. Rice face à sa faute, la frappe.
Parce qu'il a qui n'est pas en profondeur, qui est dos au jeu, qui va trouver Dembélé entrée sur face, oui, de 1-2 avec Valère. Penalty, penalty.
Dembélé qui frappe. C'est au fond.
Et c'est terminé.
Séance de tir au but.
Et c'est qui s'arrête dans sa course, qui frappe.
Oui, il l'a raté. Allez, Safonov, c'est la balle de Ligue des Champions. Si Safonov l'arrête, c'est gagné. Ou si Gabriel tire à côté, c'est gagné. La course d'élan, c'est parti pour Gabriel. Oh, c'est gagné. Oh, Paris remporte la Ligue des Champions pour la deuxième fois consécutive. Le PSG l'a fait.
La première, elle était très émouvante. Et la deuxième, ça reste dans la légende, dans l'histoire.
On a le champion d'Europe.
C'est la deuxième fois que je suis champion d'Europe et ça me fait plaisir de jouer avec ce type de coéquipier, cette staff, cette direction.
Mais on avait cette envie, plus que tout, d'aller chercher la deuxième et d'écrire l'histoire, encore une fois, de rentrer dans la légende, c'est ce qu'on a fait. J'aime trop ce club.
Deux années de suite, quand même, tu gagnes la Ligue des Champions alors qu'elle t'a échappé pendant X années et tu deviens un club important en Europe et dans le monde.
On a fait le back-to-back.
Et oui, le back-to-back réussi par Paris, 364 jours après la première.
On l'a enregistré ce matin, ça.
Paris a décroché sa deuxième Ligue des Champions, victoire au tir au but face à Arsenal. Un partout à l'issue du temps réglementaire.
C'est pas mal.
Les Parisiens entrent dans le cercle très fermé des clubs vainqueurs deux années d'affilée. Deuxième club à réussir cet exploit après le Real Madrid au XXIe siècle, le Real de Zidane, qu'il avait fait trois fois en 2016, 2017, 2018. Julien Richard nous rejoint dans ce studio. Salut Julien.
Salut Juju.
Ce sacre a été largement fêté par les supporters du PSG tout le week-end.
Wow. Et l'image est complètement iconique.
Merci d'accueillir les doubles champions d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain.
90 000 personnes sur le Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel hier. Un immense tapis bleu et rouge, 450 mètres de long. Marquinhos brandit la coupe, les joueurs défilent, la foule massée de chaque côté.
Ça fait trop du bien, franchement, c'est un moment intense, on est fiers.
C'est extraordinaire, moi j'ai même plus de voix carrément, je peux même plus parler.
Je les ai vus l'année dernière et cette année c'est encore mieux, parce que c'est encore plus proche, c'est encore plus exceptionnel.
On a le champion d'Europe.
Ouais. Le président Nasser Al-Khelaïfi qui se transforme même en chauffeur de salle.
Ouais.
Paris,
oh non, oh non, pas ça. Bon, Jean, amour, pourquoi
Il est aidé par Marquinhos sur ce coup-là. Ousmane Dembélé lâche la petite phrase, le ballon d'or, hein, qui va faire un peu plus monter l'ambiance.
Ousmane ! Une fois c'est bien, mais deux fois c'est mieux pour le back-to-back. On revient l'année prochaine pour la troisième.
Ouf, c'est noté, Jérôme. Ah ouais. Un peu avant 19h, changement d'ambiance.
Bienvenue à l'Elysée.
Palais de l'Elysée, discours du président de la République, Emmanuel Macron.
Cette équipe du PSG est une immense équipe. C'est immense, c'est énorme. C'est la fierté du PSG, de Paris, de la France tout entière. Ouais. Et pas de doute, après ce back-to-back, c'est la plus grande équipe d'Europe. Alors vive Paris, vive le PSG, vive la République et vive la France.
Même les supporters de l'OM le disent, voyez-vous. Les dorures, les dorures plus, de l'Elysée, jusqu'au bouquet final, la maison, le Parc des Princes. Ambiance incroyable, plein à craquer le parc, une immense scène dressée au milieu de la pelouse.
Bonsoir.
Il essaye de prendre la parole, mais les joueurs se mettent et le staff à faire un immense pogo. Ouais. Marquinhos, lui, est complètement déchaîné.
Bonsoir, l'OPAC. La deuxième, elle est incroyable.
Le capitaine qui est porté en triomphe par ses coéquipiers et qui lance une dernière chanson.
Elle est bien, vous allez kiffer. L'OPAC to back. Le back to back,
le back to back,
à la casa di Mego. Bon, back to back. Et il y a quelques minutes, on a donc retrouvé quatre des héros de cette folle soirée sur la terre battue du central de Roland-Garros avec les deux coupes aux grandes oreilles qu'ils ont présentées au public. Il y avait Désiré Doué, Ouared Zahir Emery, Bradley Barcola et donc Ousmane Dembélé, lunettes de soleil, mais visiblement avec encore un peu de voix.
Bonjour à tous. Ici c'est Merci.
Merci. Quatre joueurs que l'on retrouvera dès demain. Exactement. À Clairefontaine pour aller préparer la Coupe du Monde avec les Bleus.
Un grand merci Julien Richard, tu nous as replongé dans festivités du week-end. Voilà. Rappelons tout de même les débordements liés aux célébrations. 890 interpellations d'après le ministère de l'Intérieur. Allez. 178 policiers ou gendarmes blessés, un mort et 8 blessés graves parmi les civils. C'est la une de Roten sans flamme ce soir à 18h sur RMC. Le PSG est-il entré dans la légende? 32-16 pour en débattre avec nous. Jérôme. Comment répondre non à cette question pour toi?
Compliqué, oui. Alors, je vais peut-être manquer un peu d'objectivité, mais je suis dans la lignée des joueurs. Je crois qu'ils l'ont dit. La première, elle était sensationnelle. Elle était pas inattendue, mais tellement dure à l'obtenir que la deuxième, elle devient légendaire forcément, surtout deux années de suite. On sait toutes les difficultés qu'il y a à gagner des matchs de Ligue des Champions, à passer les tours à élimination directe. C'est la plus belle des compétitions, donc c'est le plus haut niveau. Je pense qu'il n'y a aucune autre finale, quel que soit l'endroit dans le monde, qui est aussi dur que cette finale-là. Et donc forcément, quand tu le fais deux années de suite, avec toute la concurrence qu'il peut y avoir, c'est vraiment incroyable. C'est pour ça qu'il y a très peu de clubs qui l'ont réussi. Donc le PSG rentre dans la légende, c'est une certitude.
Elle est plus belle pour toi que celle de l'an passé?
Écoute, elle est différente. Elle est différente, mais l'émotion est incroyable après les pénalties. On sait, parce que des fois, on l'a vécu quand on était sur le terrain, sur n'importe quelle finale. Pas forcément la plus belle des finales, celle de Ligue des Champions, mais quand tu gagnes une finale au tir au but, c'est une émotion très forte quand t'es acteur. Quand t'es comme ça, passionné de football et passionné du PSG que je suis, vous le savez, forcément, l'émotion. L'émotion, elle est incroyable sur le moment. Quand Gabriel rate son tir au but, c'est triste pour lui, hein, c'est vrai, parce que des fois, on s'est retrouvé dans sa position. Et c'est pas facile, mais là, c'est explosion de joie, beaucoup plus que l'année dernière, parce que l'année dernière, on a eu le temps de digérer, en fait. L'émotion qui a été forte, c'est peut-être au troisième but, parce que le troisième but, le premier but, deuxième but, troisième but l'année dernière, troisième but, 3-0. Déjà, 2-0, on voyait pas comment l'Inter allait revenir, mais à 3-0, c'était ficelé. Donc, on a eu le temps, je dirais, de digérer et de savourer en direct pendant 20-25 minutes. Là, ça a été violent. Et on l'a senti de toute façon dans l'atmosphère. Moi, j'étais au stade, je te le dis, il y avait tous les supporters parisiens, c'était hallucinant. Les scènes de liesse comme ça, pas un débordement, ça il faut le noter aussi.
Au stade, ouais.
Pas une bagarre avec les Anglais. Ils ont été très classe dans la défaite, les supporters d'Arsenal, que ça soit au stade, mais aussi en dehors. Et les supporters parisiens aussi se sont bien tenus, et ça il faut le dire, parce qu'il y en avait énormément. Et tellement c'était beau. Moi, j'y suis allé, j'ai posé le micro et je suis allé avec eux après célébrer ça, parce que c'est des moments, t'as l'impression d'y être. L'année dernière, je le disais à moitié en rigolant, je me sentais champion d'Europe comme les joueurs. Cette année, l'émotion, et je croyais que j'étais encore joueur. J'avais mon maillot sur les épaules, valait mieux pas que je joue, hein, mais c'est sûr que quand c'est arrivé, bam, là, c'est l'éclat total. Tu libères tout, c'est pour ça qu'elle est différente, mais elle est légendaire, comme l'a dit Marquinhos, comme l'ont dit certains joueurs. C'est fantastique de vivre ces moments-là. Il faut vraiment en profiter.
Duga, est-ce que le PSG est entré dans la légende alors?
Oui, comme on dit, tout le monde. Hein, c'est la première était historique, la deuxième est légendaire. Voilà, c'est mérité. C'est la meilleure équipe qui a gagné. C'était pas le match de l'année. Il faut pas se voiler la face. Mais par contre, voilà, encore une fois, le Paris Saint-Germain a su trouver les solutions pour aller chercher ce titre. Ça se joue à pas grand-chose. Mais voilà, il faut savoir savourer, parce qu'ils sont allés le chercher avec beaucoup de courage, beaucoup de solidarité. Encore une nouvelle fois, j'ai l'impression qu'ils ont encore apporté quelque chose de différent à leur titre. Voilà, la saison dernière, ils étaient tellement encore. tellement fort, tellement supérieur, tellement incroyable pour aller chercher la victoire, que là ils nous ont montré cette année qu'ils étaient capables de, sans être forcément exceptionnels et être parfois dans la douleur, même avec ça ils étaient capables d'aller gagner des matchs et d'aller gagner des titres. Donc voilà, c'est un très très beau champion qui mérite de réaliser le doublé.
Tu trouves ça plus fort que l'an dernier, toi, Dugas?
J'ai pris beaucoup de plaisir. Non, mais ça m'intéresse pas, ces débats, plus fort, moins fort, j'en sais rien, peu importe, mieux, moins bien. Ces deux titres qui sont extraordinaires, qui ont été différents à aller chercher. Voilà, les compétitions se suivent, mais se ressemblent pas forcément. Je sais pas, est-ce que le mieux c'est la première, est-ce que le mieux c'est la deuxième? Sincèrement, je m'en fiche de ça. C'est les mêmes émotions pour les supporters. Je comprends pas ce que ça veut dire comme question, en vrai.
Bah, c'est pas les mêmes émotions, comme l'a dit Jérôme. L'an dernier, t'es en finale, tu mets une toise à l'Inter et t'as le temps de savourer. Là, tu vas au tir au but, donc t'es à deux doigts de la perdre quand même cette finale.
Bah, oui, mais ça veut dire deux finales qui se ressemblent pas, mais aucun match ne se ressemble. Donc est-ce que c'est mieux de savourer au pénalty ou en gagnant 5-0 face à l'Inter? J'en sais rien, chacun apprécie le football qu'il veut. Là, c'était un match ennuyeux, ennuyant, mais qui se libère positivement sur les pénaltys. Est-ce que c'est mieux que de taper 5-0 l'Inter? J'en sais rien, c'est deux façons différentes d'aller chercher un titre, voilà, qui sont.
Oui, puis il n'y a pas de hiérarchie à mettre en place. C'est libre à chacun. Ce que je veux dire, c'est personnel en plus.
C'est la façon dont tu le
Mais j'imagine que pour les joueurs, l'émotion est la même. Ce que je veux dire, quand tu la gagnes 5-0 avec les 20 dernières minutes, t'as le temps de profiter. Là, c'est en émotion tout de suite. C'est très fort sur le moment, sur le tir au but raté. Mais de là à dire oui, celle-là, elle représente plus de choses, ou vu que c'est le back-to-back, non. Pour moi, c'est la même chose dans tous les cas.
Eric, toi qui, on t'a beaucoup chambré, mais on va pas faire que de chambrer pendant deux heures. Qu'est-ce que tu réponds au débat? Est-ce que le PSG est entré dans la légende?
Quand tu regardes un petit peu l'histoire de la Ligue des Champions et l'histoire de l'ère Ligue des Champions, c'est-à-dire 93, c'est-à-dire 33 ans, seul le Real l'a fait de conserver son titre. Dans l'ère Coupe d'Europe des clubs champions, il y avait beaucoup plus de clubs, c'est-à-dire que comme il y avait que les champions de chaque pays, quand tu étais très fort, tu pouvais. L'Oréal dans les années 50 l'a fait, Benfica l'a fait, le Milan c'est la fée, Liverpool, l'Ajax, Nottingham l'a fée, donc c'était plus facile, Milan, on va dire, Milan, oui, c'est plus facile dans l'ère Coupe d'Europe des clubs champions, puisque il y a une quarantaine d'années, 7 ou 8 ou 9 clubs l'ont fait. Là, il y a que le Real qui l'avait fait, et donc ça veut dire que tu es dans la légende de cette compétition là, parce que c'est devenu très dur de garder ce titre, connaissant la concurrence, c'est-à-dire tu as 4 clubs anglais, 3 clubs italiens, 4 clubs espagnols, voilà. Donc 36, avec beaucoup de gros moyens et avec la possibilité du coup chaque année de renouveler leur effectif et de se renforcer, et malgré ça personne n'est arrivé à battre le PSG, encore moins les Anglais, du coup, parce que là je sais pas comment c'est au tableau de chasse, même si ça fait nul au bout du temps réglementaire à l'arrivée,
c'est 5e première ligue là.
Voilà, donc là ça commence à faire beaucoup. Le championnat le plus puissant, malgré ça, ils n'y arrivent pas. Et quand tu regardes la jeunesse et la voracité de cette équipe-là, alors je ne sais pas comment ça va se passer à l'intersaison, parce que on en parlait tout à l'heure dans le
Mercato
Show. J'ai hâte de voir comment les dirigeants, l'entraîneur, le directeur sportif vont gérer cette intersaison, parce que l'an dernier, ils n'ont pas voulu casser la dynamique, et Dieu sait qu'ils ont été critiqués par certains supporters du PSG, puisque Pierrot le reconnaît, lui.
Et nous aussi, on l'a fait, d'ailleurs, quand Luis Campos est venu, souviens-toi, à mi-septembre.
Donc il y a une intersaison à gérer, mais tu te rends compte que cette équipe-là je parlais de basket tout à l'heure, mais avec Steve ou quoi, il parle dans la NBA, il parle de dynastie, quand une équipe gagne tout, souvent c'est le cas. quand il y a une belle équipe, souvent tu arrives à garder ton titre. Ben là, tu te dis, c'est parti pour la dynastie PSG. À mon grand désarroi, parce que là, la blague, elle commence à durer pour longtemps, là, maintenant.
Hein. Eric, c'est l'eau, là. Est-ce que la troisième pourrait annoncer ta retraite?
Non.
Oh, ben.
Non, je sais pas, je sais pas, parce que peut-être mettre une carotte si pour les joueurs parisiens.
Si ça peut te faire plaisir, pourquoi pas.
On veut te garder.
Mais pour répondre à ta question, puisque je sais que ça te brûle les lèvres, aujourd'hui, puisque j'étais hier et aujourd'hui à Marseille, nous, on ne sait pas ce qui s'est passé là pendant tout le week-end. Tout le monde est dans le déni. Tout le monde est dans le déni. On ne sait pas. On ne veut pas savoir. Bien sûr que cette victoire-là est légendaire parce que deux fois, c'est dur de garder ce titre-là.
Là où moi je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le travail des dirigeants, du directeur sportif surtout et de l'entraîneur pour avoir pour réfléchir sur comment redynamiser encore ce groupe et l'améliorer peut-être, parce qu'il faudra peut-être l'améliorer, mais n'empêche que il y a une garantie aujourd'hui, c'est que quand tu le fais deux années de suite avec quasiment la même équipe et le même groupe, ça a très peu évolué au PSG. Il y a beaucoup de joueurs, et pourquoi tu t'as réussi à le faire, c'est que t'as beaucoup de joueurs qui s'identifient un max à ce club. Du moins, ils l'adorent, ce club. Aujourd'hui, ce qui est pas le cas dans tous les vainqueurs de la Ligue des Champions, par exemple. Ce que je veux dire,
Regarde justement, puisque tout à l'heure dans le Moscato Show, Adrien a regardé ça. Le Real quand il faut la passe de 3, Zizou, il bouge pratiquement pas son effectif.
Il bouge pas.
Tu regarderas les milieux terrestres, c'est les mêmes. Devant, là, il doit y avoir Kuk. Ouais. Voilà. Donc en réalité, la légende qui veut que il faut amener du 109 à une équipe qui a gagné. Et pour qu'il y ait une émulation, elle est peut-être plus très vraie aujourd'hui. Quoi.
Ouais.
Tu as une équipe jeune et performante comme
ça. T'en auras forcément, c'est les joueurs qui sont.
Oui, mais c'est les joueurs d'appoint peut-être, ceux qui jouent pas.
C'est ça, exactement. Tu peux dynamiser et puis avoir une bonne surprise et que le mec il s'installe dans une équipe et faire bouger un peu la concurrence. Mais n'empêche que comparer, tu vois, par exemple, tu parlais du Real et c'est vrai, le Real. Trois années de suite avec les joueurs qu'ils avaient, ça n'a pas trop évolué. Ça a souvent été les mêmes. Pour ça qu'ils ont battu des records. Il y en a qui ont gagné 5 Ligues des Champions, c'est incroyable. Ouais. Tu vois. Mais trois années de suite avec quasiment la même équipe, parce que quand je parle d'identification au club, c'est quand même incroyable d'avoir des joueurs qui défendent le club corps et âme. Tu vois, la mentalité, elle est incroyable parce que ce ne sont pas des robots. Mais ils sont obligés de fonctionner comme ça, avec l'accumulation des compétitions, avec les blessures, avec tu vois les mecs, je sais pas comment franchement.
C'est l'entraîneur aussi, Jérôme, qui déclenche tout ça.
L'entraîneur, c'est un magicien. Il l'a encore montré. Duga parlait de la qualité du match. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, Duga, sur la qualité du match en lui-même. Moi, j'étais au commentaire, j'ai trouvé ça long. Très long.
Ah ouais.
Je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi, allez, vas-y, marquez un but, qu'on gagne ce match 2-1, parce que on voyait plus un but du côté du PSG que Arsenal, qui était complètement amorphe. Ouais. Mais derrière, quand tu vois la qualité de ce mec-là, de cet entraîneur-là, c'est que ça dépasse le cadre technico-tactique. Ce qu'il a fait à la mi-temps, alors déjà, il a repositionné certains joueurs, dont Ruiz, qui n'était pas vraiment pas bon en première mi-temps, mais ce qu'il fait. Quand t'es mené à la mi-temps, on sait très bien. Je le disais en direct, mais quand une équipe marque en premier sur une finale, elle prend un pas important. Et c'est pour ça que 9 fois sur 10,
les 11 dernières finales, celui qui gagne les finales.
Et surtout quand tu vois la première mi-temps du Paris Saint-Germain, je parle pas d'Arsenal, du Paris Saint-Germain, qui est pas bonne du tout. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été mauvais comme ça sur un match couperet, un match important. Tu te dis, mais comment le mec, il a réussi à remettre les têtes en avant, à l'endroit, en gardant le même 11, et les mecs sont rentrés avec une énergie différente. Non, mais c'est complètement fou. Tu vois le match de João Neves, première mi-temps, on le voit pas. Vitinha, pareil, deuxième mi-temps, João Neves et les prolongations, il a été énormissime. Comment tu peux switcher comme ça? Mais bien sûr que l'entraîneur, il rentre dans la tête des mecs, que c'est un vrai maestro, un vrai chef d'orchestre. Ça, on le dit tout le temps. Mais là, d'autant plus.
Accueillons Grégory, supporter parisien au 32-16, Jérôme.
Salut Grégory. Bonsoir à tous.
Salut
les gars.
Bonsoir à tous. Bienvenue Grégory.
Alors,
merci.
T'as récupéré déjà, et puis bien sûr que le match, le résultat est sensationnel.
Ah bah c'est sensationnel et effectivement avant la mi-temps c'était déjà c'était un match stressant. Très stressant. Avant la mi-temps, effectivement, j'ai vu une équipe d'Arsenal qui jouait un peu comme à l'italienne, un peu avant l'Italie d'avant. La grosse défense, la grosse barrière, c'était très dur. Mais effectivement, moi aussi, je te rejoins, Jérôme. Il s'est passé un discours à la mi-temps et Luis Enrique. Mais c'est là qu'on voit que c'est quand même un super entraîneur. C'est le meilleur entraîneur du monde. J'adore. Et il a su effectivement remettre les mecs en place. Et puis et pourtant Arsenal a toujours, encore une fois, après la mi-temps, a bétonné sa défense, a continué à bétonner sa défense, a joué, comme je disais tout à l'heure, un peu à l'italienne de l'époque. Et malgré tout, c'est Paris qui a réussi. Bon, c'était, ça n'a pas été facile. Bon, il y a eu le penalty, mais ensuite j'ai vu cette motivation qui était énorme psychologiquement dans ma tête. Ça a tout changé. Par contre, j'ai eu un petit peu peur quand même quand Kvaratskhelia et Dembélé sont sortis.
Ah oui.
Ça m'a un peu fait peur.
À l'équipe mais de fin de match n'est pas flamboyante.
Bah ouais, mais bon,
c'est un collectif.
Ça confirme. Si tu veux, ça confirme ce qu'on disait sur la qualité du match. En fait, quand les joueurs offensifs et ils se subliment pas, ils arrivent pas à trouver parce que Arsenal a bien défendu. Mais on va en parler.
C'est surtout un beau trait d'union pour le procès qui nous attend.
Mais c'est sûr que ça veut dire beaucoup sur ce match-là et l'importance d'avoir des mecs peut-être qui arrivent à trouver une autre solution, ce qui n'était pas le cas de Kvara, de Dembélé, même de Doué.
Merci à Grégory qui est venu au 32-16. Salut Greg, tu rappelles quand tu veux et dans un instant on y va justement pour le procès. Le procès ce soir de tous ceux qui critiquent le jeu d'Arsenal. Arsenal largement dominé sur la finale de la Ligue des Champions.
Qui ose faire ça?
Remporté par le PSG. C'est grand
back
procès back. En perspective, je vous reste avec
tout
nous.
Back.
Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h31 sur RMC, la deuxième demi-heure de Roten sans flamme du soir. C'est maintenant avec Eric Dimé. Et quoi avec Christophe Dugarry, avec Benoît Boutron. On parle toujours de cette finale de Ligue des Champions, du titre du Paris Saint-Germain. Ça va être le procès dans un instant d'Arsenal. Et à 18h45, on reçoit une légende. Bah, pour moi,
l'homme du premier titre pour moi, de champion de France du Paris Saint-Germain.
La légende du Paris Saint-Germain. Mais ça c'est personnel.
Et Eric, ça te rappelle des bons souvenirs?
On a fait quelques matchs.
Ah bah, j'imagine, oui, bien sûr. Dugas, toi, t'as joué contre Safet Suzik?
Non, je pense pas.
Ah, pas sûr. Hein. À mon avis, c'est juste quand t'as commencé qu'il a dû s'arrêter.
Non.
Ouais. Non. Allons à Roland-Garros, voir ce qui se passe sur le court central notamment, la suite des huitièmes de finale. Et on rappelle cette mauvaise nouvelle d'ailleurs, il n'y a plus de joueurs français ou de françaises parce que Diane Paris a été éliminée, Eric Salio.
Oui, éliminé assez sèchement par une joueuse dont on peut reparler parce qu'elle a un talent assez incroyable, une sorte de QI tennis que ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Bon, sur le central, Félix Auger-Aliassime a un set d'avance face à Alejandro Tabilo, mais c'est compliqué dans le deuxième puisque Tabilo mène 4-3, c'est le Canadien qui est au service, mais Félix a dû sauver une balle de break il y a quelques secondes. Et puis sur le court, Suzanne Lenglen, Forza Italia, 2-7-0 pour Matteo Berrettini, 6-3-7-6. Il peut donc rejoindre en quart Coboli, mais ce ne serait pas un Coboli-Berrettini en quart, hein, mais Coboli qualifié tout à l'heure. Donc on peut même avoir 3 Italiens en quart, puisque à l'heure on aura Arnaldi contre Tiafoe.
Merci Eric.
RMC, Roten sans flamme.
J'en ai marre de ces clowns là, c'est ce cirque là. Donc ils arrêtent de nous inventer des espèces de trucs là, je sais pas quoi, des postes qui n'existent pas. Non mais c'est insupportable, je te jure, ils m'énervent tous ces gens du foot là. Je suis content de me barrer là, je les supporte plus tous ces clowns là.
Le procès de Roten sans flamme.
Il était énervé, oh. Il était énervé, oh.
Heureusement, il est revenu.
Là, c'était la fin, il avait ras-le-bol là. Bon, au moins, il est revenu.
C'était pour quand ça déjà?
Je sais pas. C'était quoi ça?
Pourquoi je veux dire?
C'est plus. Bon, revenons sur cette finale à sens unique à Budapest samedi. Arsenal qui a énormément subi, 24% de possession de balles, c'est le plus bas pourcentage de l'histoire des finales de Ligue des Champions. 7 tirs dont un seul cadré, le but de Kai Havertz à la 6e minute. 285 passes en 120 minutes, c'est 3 fois moins que le PSG. Le symbole de cette soumission aussi, ça vous a forcément interloqué, messieurs. Ce sont ces chandelles de Declan Rice sur les engagements. Alors ça, fallait l'inventer aussi. On n'est pas au rugby et pourtant Declan Rice levait le ballon et envoyait une grande chandelle dès qu'Arsenal engagé. On rappelle qu'Arsenal, comme en 2006, a perdu une finale de Ligue des Champions après avoir ouvert le score. On va tout de même ouvrir le procès de ceux qui critiquent le jeu d'Arsenal. Ce soir, on a 2 procureurs qui veulent donc défendre les Gunners. Jérôme Roten, bonsoir.
Bonsoir.
Et Eric Dimeco, bonsoir.
Bonsoir.
Celui qui n'a pas supporté la prestation d'Arsenal, c'est Christophe Dugarry. Bonsoir.
Non mais excusez-moi, comment on peut me faire un procès? Tout le monde a vu le match quand même. Alors, Eric l'a pas vu, donc je peux encore l'excuser. Mais comment me faire un procès pour me reprocher qu'Arsenal a joué mal? Alors là, elle est bonne, celle-là.
C'est pas ça le titre, non? Il y a des arguments.
Ceux qui critiquent le jeu d'Arsenal, si. Ils disent c'est nul, c'est
le
si,
jeu
c'est
d'Arsenal.
Ça. Ouais. Oui, bien sûr.
Le jeu d'Arsenal, il était comment? Il y en a qui vont dire que c'était bien.
Oui, ne commençons pas le procès avant d'accueillir le juge. Laurent, supporter de l'OM.
Ils sont deux en plus.
Salut Laurent.
Bonjour la team.
Salut, bienvenue.
Bonjour.
Allez, allons-y, Jérôme, sur ce procès. Quand je t'ai appelé ce matin, je t'ai dit qu'est-ce que t'as pensé du jeu d'Arsenal. T'as dit bon, j'ai pas forcément aimé, mais je suis pas surpris non plus.
Non, je suis pas surpris. C'est pour ça que moi, je veux bien que les gens ont été désagréablement surpris, si tu veux, de la prestation des Gunners. Mais ça veut dire que ces gens-là, ils ont pas regardé ce que faisait Arsenal depuis 2 ans. On va remonter à 2 ans, tu vois.
Comment tu parles de Duga, c'est pas beau. Hein.
Non. Mais je parle de l'ensemble. Je pense que ce que met en place Arteta, c'est une façon de jouer au football. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est une façon de jouer au football. En effet, c'est pas très spectaculaire, c'est moins qu'on puisse dire. Essayer de calquer sa tactique et les consignes aux joueurs juste pour contrer l'équipe adverse ou les joueurs adverses, c'est problématique. Après, une fois que tu récupères le ballon, mais a priori, ils l'ont encore montré, le ballon, ils en veulent pas forcément. Donc, on l'a vu. On constate que presque 80% de possession pour le Paris Saint-Germain contre un peu 20% pour Arsenal montre à quel point ils étaient vraiment pas là pour faire du jeu, essayer de poser des problèmes avec le ballon au Paris Saint-Germain. Par contre, après, en effet, ils installent un bloc défensif, ils bloquent les équipes. Les attaquants adverses ou les milieux adverses ou ceux qui viennent des doublés comme Nuno Mendes et Hakimi. Et c'est vrai qu'on se rend compte que tout ça, ça a fonctionné. Et c'est une façon, encore une fois, de jouer au football. Alors moi, je veux bien qu'on s'en prenne Arsenal, ouais, ils proposent rien, mais qu'est-ce que tu veux? Ils étaient à un pénalty de la gagne, à un pénalty d'être champion d'Europe. Ils sont champions d'Angleterre. Ça faisait plus de 20 ans que ça leur échappait.
22 ans.
La finale à Ligue des Champions, la dernière, tu l'as dit, c'était 2006. En 2006. Ils avaient perdu avec une autre façon de fonctionner, on est d'accord. Mais là, c'est Arteta qui est manager de cette équipe. Écoute, ça lui convient bien, c'est ce qu'il veut mettre en place. La preuve, c'est que je l'ai entendu en conférence de presse. Lui, ça ne l'a pas choqué, la prestation de ses joueurs.
Il est fier de lui.
Il est content de lui. Il dit que c'est un problème aussi d'arbitrage parce qu'on leur oublie un pénalty. Oui, bon, bah, écoute, ça, c'est se réfugier derrière des choses ahurissantes. Encore une fois, je te le dis, pour moi, la meilleure équipe à gagner et tant mieux sur ce qu'elle nous propose, et cette équipe-là est spectaculaire. Ça n'a pas été le cas du PSG sur la finale, il faut reconnaître, mais au moins sur l'ensemble de son œuvre, sur les prestations, je préfère jouer, être nous on a été joueurs, être dans l'équipe du Paris Saint-Germain que l'équipe d'Arsenal. Mais encore une fois, je te dis, il y a des équipes qui ont été surprenantes, très défensives, à gagner cette compétition-là, et Arsenal était à un pénalty de la gagner. Donc moi, je mets le pied sur le frein sur les critiques, parce que c'est toujours très facile de donner des leçons. Mais je pense que si Arsenal voulait jouer comme le PSG, bah Arsenal, jamais ils auraient vu la finale de la Ligue des Champions.
Alors, Eric.
Bah, oui, parce que Jérôme l'a dit, si on a regardé un peu les matchs d'Arsenal ces derniers temps, on se rend compte qu'ils ont été plus dans ce jeu-là. Ne jamais oublier que c'est une équipe qui était le loser magnifique, c'est-à-dire c'est des équipes qui jouaient bien et qui gagnaient jamais rien. Et cette année, pour aller chercher ce titre de Première Ligue, ils ont été obligés de jouer comme ça à la fin, parce que ça devenait difficile, parce que la pression, parce que peut-être ils n'avaient pas les qualités offensives pour faire plus, et ils sont aller chercher le titre de Première Ligue comme ça. Et pour moi, il y a ce constat-là, mais il y a aussi le scénario du match. Tu ne peux pas nier le scénario du match. Et le scénario du match pour eux, en marquant aussi vite, eh ben, il est, on va défendre ce but jusqu'au bout.
Voilà, c'est, et peut-être que s'ils avaient pas marqué ce but aussi vite, ils auraient essayé de créer du jeu, et peut-être qu'en essayant de créer du jeu, ils en auraient pris comme à l'Inter l'an dernier. Donc c'est pour ça que moi je veux bien, et tout le monde a envie de jouer, de gagner, en étant beau, ou se mettre devant la télé, regarder un beau match. Mais le football, c'est pas que ça. Le football, c'est, tu utilises tes armes pour, contrer les points forts de l'adversaire, ou, en tout cas, jouer sur tes points forts à toi. Et surtout, tu dois aussi t'adapter à un scénario de match. Et le scénario, moi, je te dis que ce match-là, samedi, je ne l'ai pas vu. Mais je peux te dire que, non, mais c'est la vérité. On m'a tenu au courant du résultat. Quand j'ai vu qu'il marquait très vite,
Tu t'es mis à regarder.
S'ils avaient continué à ou essayé de jouer, je pense qu'ils ne seraient jamais allés au pénalty. Ils en auraient pris un chacun. Mmh. Pour moi, la seule manière pour eux d'essayer de d'enlever ce match-là, c'était comme ça, c'est-à-dire de défendre ce but-là et au pire, tu en prenais un, tu allais au pénalty et voilà. Donc c'est pour ça que le procès quand tu es extérieur au truc, tu dis oui, j'ai envie de me regarder devant la télé. Mais eux, c'est la seule solution pour qu'ils puissent le gagner, ce trophée-là. Alors, donc, comment tu peux leur en vouloir?
Pour un mec qui n'a pas vu le match, c'est beaucoup trop long. Hein.
Parole à la défense, beaucoup. Justement, Maître Dugarry, alors.
non, mais je suis ravi. Arsenal est et restera le plus grand club à n'avoir jamais remporté la Ligue des Champions. Bravo Arsenal, mais quelle fierté! Non, mais ça me fait beaucoup rire les arguments d'Eric. C'est-à-dire que comme ils ont ouvert le score à la 6e minute, il fallait obligatoirement chercher, comme ils ne sont pas capables, soi-disant, de faire mieux, il fallait carrément chercher, mettre le bus devant. Il n'y avait pas d'autre solution parce que s'ils avaient attaqué, c'était sûr qu'ils en prenaient comme l'Inter. Bon, il n'a pas vu le match. Ok. Les intentions d'Arsenal, elles étaient claires dès le début du match. C'est-à-dire que dalle. Walou, ils ont fait rien du tout. Ils avaient. Et à aucun moment, ils sont venus sur le terrain pour créer quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on a vu des dégagements en genre. On a vu une équipe d'Arsenal qui a cherché à gagner du temps de manière systématique. C'était juste imbuvable, insupportable. Voilà, j'ai trouvé l'attitude d'Arsenal dans cette victoire. Et ils ont, et ce qui est terrible, et ce qui a failli être terrible pour le football et pour les gens qui aiment le foot, et mes deux copains partagent mon avis, j'en suis persuadé, puisqu'ils adorent aussi voir le foot, les bons matchs, on adore tout ça. C'est qu'ils ont failli rendre et donner l'illusion qu'en faisant aussi peu, en créant aussi peu, qu'on puisse gagner la Ligue des Champions. Parce que c'est pas seulement sur ce match-là qu'ils ont créé si peu.
Ah non, non.
Ils ont créé si peu depuis bon nombre de matchs. Ils ont fait 4 mois et demi correct en début de saison en championnat. Mais j'étais le seul à vous expliquer qu'Arsenal, c'était des bidons. Depuis le début, du gars t'exagère. C'est des bidons. Et ils se sont contentés d'arriver avec un boulard démesuré, Arteta, on va taper, on va les battre. Ils ont failli, tu te rends compte qu'ils ont failli gagner la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, qui est 10 fois plus fort qu'eux.
Donc ils ont raison s'ils ont failli la gagner.
Et même en difficulté, oui bien sûr, et même en difficulté, même quand c'est compliqué d'aller jouer contre une défense qui est renforcée, qui joue à 11 derrière et tout ça, ils ont montré encore des ressources mentales, psychologiques, de patience, le Paris Saint-Germain, pour aller chercher cette victoire. Je suis tellement content qu'Arsenal l'ait dans le baba, et j'espère, s'ils veulent la gagner un jour, et qu'ils se mettent à jouer au football, parce que ça c'est pas Arsenal. Voilà, il y a une histoire quand même, ce club, c'est les Gunners. Il y a une histoire, il y a un vécu, il y a un football dans ce club. Ils peuvent pas jouer comme ça, c'est pas possible. On peut pas gagner la Ligue des Champions en faisant des trucs comme ça. Et même s'ils avaient réussi, ça aurait été un scandale. Ils l'auraient gagné, mais ils l'auraient en travers. Et je peux dire, et la dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est que la meilleure façon d'avoir des regrets et de perdre la Ligue des Champions, et d'avoir des regrets comme ils doivent en avoir.
Et ouais, quand tu dis des bêtises, ouais, là, ça se coupe.
Censuré, quoi. Ah ouais. Les Anglais ont
c'est
eu.
C'est de jouer de la façon dont ils ont joué.
Ah bah voilà.
Voilà. Il y a rien de pire. Quand tu joues comme ça et que tu perds, t'as des regrets toute ta carrière et toute ta vie. S'ils avaient essayé de jouer et qu'ils auraient perdu, ils auraient pas eu de regrets. Là, ouais, ils en ont énormément. Du coup, c'est bien fait pour eux.
Merci, Duga. Le verdict de Laurent au 32-16. Qui remporte ce procès, alors, Laurent?
Allez, Lolo.
Ouais. Ben, pour moi, Eric et Jérôme, puisqu'il n'y a pas qu'une seule façon de jouer au foot. Ça peut être une façon, la façon d'Arsenal. Ils ont joué en défense.
C'est pas le sujet.
S'ils avaient joué plus vers l'avant, on l'a bien vu, même le Bayern, qui est une équipe qui joue vers l'avant, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à passer contre le PSG.
Ils ont même pas essayé.
Donc, ils ont joué leur carte de
5 tirs, 5 frappes en 120 minutes.
De se mettre en défense, et ça a failli fonctionner. Donc voilà, moi je donne vainqueur Eric et Jérôme. Voilà.
Là, c'est ton ami, ton amour merci, de l'OM et d'Eric Dimeco là.
Merci Lolo.
Écoute, du foot. Bravo les gars.
Franchement Lolo, merci, Laurent. J'ai envoyé un maillot back to back à Eric, je vais t'en envoyer un aussi.
Excellent.
Magnifique. Franchement.
Merci Laurent. Bye bye.
Salut,
bonne soirée. 18h43 sur RMC.
Ils veulent vraiment tous des maillots. Hein.
Dans un instant, une légende parisienne avec nous. L'homme du premier titre de champion de France du PSG en 86. Sa fête physique sera avec nous. À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h47 sur RMC. On est là, on est bien dans Rotten sans flamme. On finit la première heure, les 10 dernières minutes avec Eric Dimeco, avec Christophe Dugarry et avec Benoît Boutron. Et la séquence qui va arriver, je l'adore. Déjà, le Allô Jérôme, parce qu'on a toujours des surprises et c'est toujours bien d'avoir des gens extérieurs à l'émission. Mais là, on a une légende. Légende. Et là, c'est quelque chose quand même. Ça fait physique.
Sûr. Il arrive dans un instant.
Ça c'est ma légende du PSG.
C'est vrai ?
Ah, ouais.
Ah, bah, excellent.
Ah, oui. Écoute, je le sais, on en a parlé dernièrement.
Dans quelques secondes. Et puis à 19h, encore un peu de souffrance pour Eric Dimeco. Rotten se chauffe. Est-ce que Paris a conquis le cœur des Français ? Surtout, on attend vos témoignages au 32-16. Vous habitez n'importe où en France, vous appelez le 32-16, vous nous dites si ça y est, vous devenez amoureux du Paris Saint-Germain ou non. Allez, tout de suite, allô, Jérôme.
RMC, Rotten sans flamme.
Ah, Suzy qui a bien éliminé Adencore là.
Il est en place pour frapper, voilà.
Oh, quel but! Extraordinaire but de Safet Souzic.
Allô Jérôme.
Safet Souzic, légende du Paris Saint-Germain, champion de France 86 et l'invité de Rotten sans flamme, messieurs.
Salut Safet.
Bonjour.
Bonjour Safet.
Salut Safet.
Ça va Safet?
Bonjour Jérôme, Christophe, Eric et tous les autres.
Bon, écoute, c'est un plaisir de t'avoir dans mon émission. Déjà, merci. Pour célébrer cette deuxième étoile, ce back-to-back, comme on l'appelle dans le jargon, parce que franchement, pour moi, t'es la légende de ce club. Alors, il se passe beaucoup de choses en ce moment, et bien sûr qu'il y a des joueurs qui ont marqué à jamais ce club et qui sont encore là. Mais toi, t'es le précurseur. C'est toi qui a lancé ça. Et comment t'as suivi cette finale?
Déjà, c'est pas moi qui a lancé ça. Il y en a d'autres avant moi et après moi. J'ai regardé le match à la maison. J'étais invité pour aller à Budapest, mais ce n'est plus pour moi, le voyage et tout ça. J'ai regardé tranquillement chez moi. On avait peur jusqu'à la fin, mais finalement, on a gagné, ce qui est le plus important.
Bon, tu regrettes pas donc, comme t'as dit, c'est ton âge, mais bon, t'es encore bien, hein, donc je te vois régulièrement au Parc des Princes. C'est vrai que ça aurait été sensationnel que un mec comme toi, un ancien joueur comme toi, ramène la coupe, parce que quand t'as tiré Henri d'un côté, c'est vrai que ça fait de Suzy qui aurait eu de la gueule quand même.
Vous savez, j'étais invité l'année dernière aussi, cette année, chaque fois je me dis. Par hasard, si on perd, il va y avoir une bonne ambiance. J'aime pas trop ça. Peut-être c'est mieux que je suis pas allé parce que peut-être.
Pas envie de voir une défaite, quoi. Ouais.
Oui.
Bon, est-ce que pour parler plus globalement, toi qui suis l'équipe actuelle, tu lui trouves forcément beaucoup de qualités, mais est-ce que t'es d'accord avec nous sur le fait que cette deuxième victoire, cette équipe devient légendaire?
Bah, c'est peut-être plus important cette année que l'année dernière. L'année dernière, peut-être on s'attendait un peu cette année avec les préparations qu'ils ont pas eues, avec tous les malheurs qu'ils ont eus dans la saison, avec tous ces blessés, avec tous les joueurs absents. Réussir à gagner deuxième fois la Ligue des Champions, c'est vraiment énorme. En plus, éliminer Chelsea, Liverpool, Bayern sans perdre un match, plus gagner contre Arsenal, c'est vrai aussi. Il y a une équipe qui mérite vraiment d'être champion d'Europe, c'est Paris Saint-Germain.
Ça fait Suzic. Eric Dimeco a une question pour vous.
Oui, Safet. Salut, Safet. Quelle relation tu as avec le club? Est-ce que tu as l'occasion de venir à Paris, de venir voir des matchs?
Je n'ai jamais quitté Paris.
Ah, tu es toujours là, d'accord.
Je suis toujours là, mais je ne viens pas souvent au parc. Je regarde uniquement la Ligue des Champions. voilà, championnat que c'est moins intéressant.
Ouais, c'est différent.
C'est moins intéressant. Oui, parce que on s'est dit, quand on vient au parc pour regarder un match de championnat, il va y avoir combien de buts d'écart et ça, j'aime pas ça.
Et ouais. Pas de suspense.
La Ligue des Champions, je viens là pratiquement à chaque fois. Oui. Ouais.
On sort la légende, Eric. La légende, ça fait de Suzy que les soirs de Ligue des Champions.
C'est les grands soirs, les soirs de gala, quoi. Ouais. Ça fait quand on a connu comme ça le début de l'histoire de ce grand club qui est le Paris Saint-Germain, je le disais, avec ce premier titre de champion en 86, vous avez passé 9 saisons sous le maillot parisien. Oui. Avec un peu de recul, quand vous voyez l'évolution du club, et là décrocher 2 Ligues des Champions d'affilée, un PSG qui, on va en débattre à 19h, mais commence à conquérir peut-être les autres régions de France, qu'est-ce qu'on ressent quand on a été joueur pendant des années de ce club?
Une grande fierté avant tout. Maintenant, quand je dis que j'ai joué au Paris Saint-Germain, tout le monde me regarde bizarrement. Avant, quand je disais que j'ai joué au Paris Saint-Germain, je me rappelle une fois, j'étais à l'étranger chez des amis aux États-Unis. Quand ils m'ont demandé ce que je faisais, je dis que je joue au football. Quelle équipe, Paris Saint-Germain? J'avais l'impression qu'ils n'ont jamais entendu parler. Maintenant, tout le monde connaît Paris Saint-Germain. Vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Je voudrais, féliciter avant tout le président Luis Enrique et tous les joueurs. L'année dernière, quand Luis Enrique le disait, quand ils ont laissé partir Mbappé, on va être meilleur, on va jouer mieux, on va peut-être gagner la Ligue des Champions, tout le monde rigolait. Et il avait raison, c'est certainement le meilleur entraîneur au monde actuellement.
Ça fait, c'est qui votre joueur préféré dans l'effectif? Est-ce que c'est le successeur avec le numéro 10, Ousmane Dembélé, ou c'est un autre d'ailleurs?
Vous savez, ils sont tellement bons, surtout en attaque et au milieu de terrain. Choisir un, c'est... Je ne sais pas, je ne pourrais pas... Vraiment, si je suis obligé de choisir un, cette année, c'était... Quara qui a été exceptionnel à chaque match. Oui.
Mmh. Ah ouais. Bon, ça fait à quand la statue devant le Parc des Princes? Ils t'en ont parlé ou pas?
On verra, peut-être, pourquoi pas un jour. Il y en a qui méritent beaucoup, beaucoup. Plus que moi.
Bon, il y en a un qui mérite d'avoir la statue, c'est aujourd'hui, c'est Luis Enrique. On va faire un hashtag statue parce que ça, franchement.
Oui, vraiment, ce qu'il fait depuis 2 ans avec Paris Saint-Germain, c'est exceptionnel, vraiment. J'espère qu'il va rester longtemps à Paris.
On va en débattre à 19h30, mais est-ce que parler de 3e titre européen au lendemain du 2e sacre, est-ce que c'est présomptueux? Est-ce que c'est un peu s'avancer? Ou est-ce qu'on peut réellement y croire quand on est supporter parisien, vu la dynamique et la qualité de cet effectif?
Déjà, cette équipe est très jeune. À part Marquinhos, il n'y a pas un joueur qui a plus de 27-28 ans. Ça veut dire, je ne vois pas un joueur qui a envie de partir, de quitter Paris Saint-Germain. Ça veut dire, ils vont prendre encore certainement 2-3 grands joueurs et pourquoi pas égaler le record de Real ou même dépasser. Parce que pour moi, Paris Saint-Germain, c'est de loin la meilleure équipe au monde en ce moment.
Et ben voilà, comme ça c'est dit. Merci Safed, bienvenue dans Rotten sans flamme.
Merci.
Amitié à tous.
Merci. Voilà.
Ciao, Safed. Au revoir, Safed.
Ouais. Non, mais j'avais un message à lui faire passer parce que je reçois plein de.
Il est là, Safed, il t'écoute.
Ah, Safed, il y a plein de messages de supporters parisiens et qui pensent un petit peu comme moi. Alors, c'est vrai qu'ils sont un petit peu vieillissants pour la plupart, mais ce qui est sûr, c'est que. Voilà. Ah, non, il écoute pas. Mais ils sont tous unanimes pour dire qu'il y a une légende, une grande légende, c'est ça fait de Suzy.
Bien sûr. Voilà. Et avec joueur fabuleux, hein.
Ouais, c'était numéro 10 à l'ancienne, techniquement très fort, avec une vision du jeu extraordinaire, voilà, puis en plus solide.
Ouais,
tu sais, les joueurs de l'ex-Yougoslavie, c'était en Europe, c'était techniquement, moi j'ai toujours aimé ces joueurs-là.
T'en as connu
des grands joueurs dans les années 70. Oui, mais Dragan Djazic, moi quand j'étais petit, c'était un ailier gauche très racé, ça s'en souvient, et et les Yougos, c'était vraiment des joueurs à part en Europe, quoi. C'est-à-dire, c'était les Brésiliens de l'Europe, les avec des gros caractères généralement. Ouais, ben j'ai joué avec Pixi, Dragan, Stojkovic, Alen Boksic, et je te dis, quand j'étais gamin, il y avait plein de joueurs yougoslaves qui étaient ex-Yougoslavie, du coup, qui étaient fabuleux.
Un grand merci à Safet Suzic qui est venu dans Roten sans flamme, et dans un instant sur RMC à partir de 19h, Roten se chauffe. Est-ce que Paris a conquis le cœur des Français 32-16 pour participer à ce débat? On est là jusqu'à 20h.
C'est fou, c'est les Verts en 76.
Double champion d'Europe avec Eric Dimeco, champion d'Europe.
Toute la France. Hein.
Avec Christophe Dugarry, champion du monde, champion d'Europe. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Roten sans flamme.